Leclerc, bonjour.
Bouh.
Pardon?
Bouh. Bon, ok, je voulais vous faire peur en fait, mais je vois que ça n'a pas marché. J'ai quand même le droit à des bonbons.
Mais oui, bien sûr. Du 22 octobre au 2 novembre, c'est Halloween chez Leclerc. Pour l'achat de deux paquets multipack Haribo, Dragi, Bou, Haribou ou Pika, Bou, le troisième est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, et vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Quentin Cavanis. Comment il va?
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Bon, écoute, ça va très très bien. Voilà.
Ouais.
Bon, ouais, écoute, on est là, on a des débats de société, voilà, dans la rédaction, donc tout va bien.
Ah, ça, c'est clair, hein, gros débat de société. Antoine Mazer, bonsoir.
Salut Alex, salut à tous.
Comment ça va?
Écoute, ça va, on a passé une après-midi à regarder les exploits des frères Lebrun. Quel immense exploit.
Oui, toi, un digne représentant du ping français.
Exactement, un exploit historique pour le ping français, remporter un titre, un double titre en une seule journée, double européen avec son frère déjà, et aussi en simple quelques minutes plus tard face à Bénédicte Douda.
Il a vengé son frère.
C'est assez impressionnant à seulement 21 ans, réussir à repasser tous les problèmes de blessures qu'il a eu Alexis, puis de voir son frère qui a 17 ans, qui finalement lui vole la
vedette. Ah mais c'est bon, ça parle pas trop de ping non plus.
Bonsoir Enzo Jacquet.
N'écoutez pas les autres.
Bonsoir.
On aime le sport.
Moi, j'ai dans l'épreuve. Non, mais Nicolas Gomez en parlait très justement dans son flash, quoi. C'était assez impressionnant.
Oui, mais on l'embrasse.
Ouais. On embrasse Nicolas. Comment ça va, Enzo?
Ça va, bien reposé. J'ai dormi 17 heures.
J'espère que ça va quand même.
Un plaisir.
Ouais, bah, t'as dormi 17 heures?
Non, je suis juste resté dans mon lit pendant beaucoup trop longtemps. J'ai hiberné. Mais wow, ça mais va ça, très bien. Quentin Cavanis perd sa Fantasy League contre moi. Hier, il y a eu un qui je suis. Tout va bien pour moi.
Waouh. Ouais, c'est vrai que t'es au top. Est-ce que tu vas remporter l'en haut de l'affiche de cette septième journée?
Non,
c'est toute
la
question,
hier,
hein.
J'ai tout mis hier. Désolé.
Ah, donc y a plus rien. Y a plus rien chez Enzo Jacquet. Dans un instant, sur Sud Radio, on va se poser aussi la question. Quels sont les grands chantiers de la Fédération Française de Rugby? Il y aura les grands enseignements de la septième journée de Top 14. Il y aura évidemment en haut de l'affiche. Et puis, un débat ce soir avant la Rochelle UBB. L'UBB fait encore tourner chez un gros en Top 14 quand on est candidat au titre. Est-ce manquer de respect au championnat? On se posera la question aux alentours de 20h45. Mais avant toute chose, Quentin Cavanis, un point sur les résultats de Top 14 de Pro D2 et sur les dernières informations.
Les dernières informations pour commencer avec l'info principale du week-end en ce qui concerne le rugby, c'est évidemment la réélection de Florian Grill à la tête de la FFR. Le président sortant remporte le suffrage avec près de 67% des voix. On a des nouvelles de Lucas Dubois qui est sorti hier sur blessure, hein, le ailier de Perpignan, qui souffre d'une fracture du péroné. Et il sera absent environ 6 semaines. Et puis une info, changement de club pour la saison prochaine. C'est l'arrière de Béziers, Gabin Laure, hein, qui avait beaucoup de prétendants. Et il devrait signer du côté du Loup Rugby dans les prochains jours. Il y aurait, d'après le Middle, déjà un accord entre le club et le joueur pour un contrat de 3 saisons pour Gabin Laure.
Pour remplacer Nignashvili, qui est en partance pour La Rochelle.
Oui, La Rochelle qui se renforce un petit peu, qui va se renforcer à l'intersaison avec notamment Le Garec et Nignashvili.
Tout à fait.
Voilà. Un peu de
exactement.
Voilà, alors, en termes de résultats pour cette septième journée de Top 14, Bayonne a battu le Racing 92, 32 à 15, succès de Castres face au Stade Français 35 à 13. Toulon a battu le MHR 30 à 17, Clermont s'est imposé face à Vannes 55 à 33, succès de l'USAP face au Loup Rugby 29 à 26, Toulouse s'est imposé à Pau 22 à 14. Il y aura ce soir à 21h05 La Rochelle Union Bordeaux-Bègles, et puis il y avait également de la Pro D2 ce week-end Alexandre, avec notamment quelques surprises, peut-être, en tout cas un succès marquant dans cette journée de Pro D2, c'est la victoire niçoise. Alexandre, c'est peut-être le résultat le plus marquant de cette journée de Pro D2, avec Nice qui s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse d'Aurillac 25 à 16. Dans les autres matchs, Aix-en-Provence a battu Brive 23 à 20, match nul entre Colomiers et Soyons-Angoulême 13 partout, Grenoble à l'extérieur a battu Béziers 25 à 22, victoire de Mont-de-Marsan face à Nevers 22 à 14, Dax a battu Oyonnax 28 à 15, succès de Montauban à Valence-Romans 32 à 31 et Biarritz qui a battu Agen 30 à 26. Au classement, c'est Montauban qui est leader de Pro D2 devant Biarritz et Grenoble.
Et ça, c'est une petite surprise quand même. Ce trio de tête là est une véritable surprise. Dans un instant, sur Radio, on va évoquer la Fédération Française de Rugby. Mais d'ailleurs, tiens, un petit point sur Gabin Laure. C'est une bonne destination ou pas, le Loup Rugby, selon toi, Antoine?
On avait le débat tout à l'heure, d'ailleurs.
Alors oui, par rapport au temps de jeu, par rapport au temps de jeu, par rapport au fait qu'il va s'imposer et que suivant, en fonction de ses qualités qu'on suit maintenant nous en Pro D2 depuis un maximum voilà de temps et honnêtement je sais pas si le contexte lui correspond pour en avoir beaucoup échangé avec lui
il va pas te dire le contexte me va pas alors qu'il va signer là-bas.
Non mais moi quand je connais
c'est ton avis.
C'est totalement mon avis, mais pour en avoir beaucoup échangé avec lui, ce qu'il a besoin dans une forme de rugby, pour une forme de concentration, pour une forme de plénitude totale, pour une forme d'épanouissement, c'est un contexte un peu... c'est un contexte un peu à la Biterroise pour s'épanouir dans un projet. Moi, je pense qu'à Lyon, c'est pas forcément le contexte, on va dire rugby, qui peut te mettre sous pression, où tu sens vraiment que les supporters, la ville, le territoire est tout derrière
Il a besoin d'être poussé.
T'es en train de nous dire qu'à Lyon, il y a zéro ferveur. Ah bah Lyon, c'est sympa pour les Lyonnais, ça, Antoine. Enzo, est-ce que c'est une bonne destination, Gabin Laure?
J'ai jamais dit ça. Moi, je connais pas Gabin Laure. J'ai pas la chance d'échanger avec lui, mais au vu du profil du garçon et du profil de Lyon aussi, un jeu assez offensif ou un peu décomplexé, etc. Moi, je trouve que ça va très bien cette équipe de Lyon, qui a de l'ambition.
Moi, quand je vois le temps de jeu, le premier argument d'Antoine, c'est le temps de jeu. Bah oui.
Oui, mais il va l'avoir.
Il va l'avoir. Normalement, oui, il va l'avoir.
S'il n'y a pas de problème, s'il arrive à s'intégrer. Mais
nommez-moi une meilleure destination que le Loup Rugby.
On y a réfléchi avec Antoine et on se disait qu'il y
avait... C'est quoi, c'était Montpellier?
Non, Montpellier c'est et puis je suis pas sûr qu'il ait envie d'y retourner, ça c'est un autre problème, mais le contexte montpellierain, je suis pas sûr que ce soit le mieux pour arriver en top 14. Le Loup c'est plus serein, après t'aurais pu avoir un club comme la section paloise qui aurait pu correspondre aussi.
Attends, ils ont 50 000 arrière.
Ouais, ou Castres, tu vois. Mais moi je trouve que le Loup c'est pas une mauvaise.
Toi tu perds pas le nord.
Mais non, mais quand tu sais que là Dumoura a quand même eu pas mal de pépins physiques, que Geoffrey Palisse vieillit, il y a peut-être une place à aller chercher, mais au Loup, où la place elle est faite, Niniashvili s'en va, la place elle est faite, elle est là. Et moi je pense que c'est quand même un bon step, parce que c'est pas le Loup une équipe qui est habituée du top 6 sur les dernières années, c'est pas là où il y a la plus grosse pression non plus, donc moi je pense que pour se développer c'est pas mal avant, pourquoi pas, de faire la bascule vers un club encore plus haut au classement, où là pour le moment les postes à l'arrière sont compliqués à aller chercher, quand tu sais que Niniashvili va aller à La Rochelle, donc la place sera prise, qu'à Toulouse c'est pris, qu'à Bordeaux c'est pris, donc je pense que le Loup, moi c'est une bonne étape, c'est un bon step.
C'est intéressant quand même. Niniashvili, Laure, est-ce qu'il n'y a pas une certaine similitude sur les qualités, Antoine et Enzo? Est-ce que entre le jeu au pied long, enfin pour le coup être buteur longue distance c'est important, on a la sensation que Niniashvili pouvait le faire, et Gabin Laure, je crois qu'il peut le faire, mais quelles sont les autres qualités qui pourraient laisser penser que le Loup Rugby, en prenant Gabin Laure, ne va pas changer grand chose à son plan de jeu, Antoine?
Son jeu au pied, tout simplement, le mec,
ça peut relancer aussi, hein.
C'est un joueur qui est très à l'aise avec son jeu au pied, plus que Niniashvili qui a pas de mal à tenter des drops dans des moments importants, et subit peut-être moins la pression que David Niniashvili. En tout cas, dans les moments importants, il sait prendre ses responsabilités, même s'il a que 22 ans.
Mais tu l'aurais en plus envoyé à Castres qu'à Lyon?
Non,
comme
moi,
Quentin.
J'ai discuté avec Quentin. Pour moi, un club qui aurait pu, entre guillemets, correspondre un peu à tout ça, tout en jouant pas forcément les premiers rôles, un club un peu comme Bayonne, tu vois. Je sais qu'il y a Tchèque
qui va
bien. Ouais. Avec un club avec une grosse ambiance, une grosse ferveur et des matchs souvent en pression.
Il a quand même plus d'assurance à Lyon qu'à Bayonne, non?
Plus d'assurance dans quel sens?
De jouer.
Ah oui, de jouer.
De jouer plus haut aussi.
En termes de choix de carrière, c'est très bien, parce que c'est réfléchi, c'est posé, c'est analysé, et je trouve que il se fera sa place. Et en plus, c'est un jeune joueur qui a besoin de jouer, et s'il joue pas, il est plus performant. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup enchaîner les matchs, et surtout c'est quelqu'un qui a très peu de blessures. On l'a vu l'année dernière, il a enchaîné 26 feuilles de match, dont notamment je crois 24 consécutives, et c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, sinon il est de moins en moins performant. Et au moins, il aura ce temps de jeu-là à Lyon, et c'est quasiment une certitude.
Et pour le Loup, c'est une bonne pioche aussi, parce qu'il va pas être absent pendant les rassemblements des destinations. Il est gif. On sait que Niniashvili, il est souvent pas là parce que, c'est la star de son équipe nationale. Donc voilà, moi, je pense que, alors, pour Gabin Laure, c'est bien parce qu'il va avoir du temps de jeu, et pour le Loup, c'est bien parce qu'il récupère un joueur où ils vont pas forcément perdre énormément en qualité, ils vont gagner peut-être en jeu au pied en plus, comme le soulignait Antoine, et ils ont un joueur qui va être là quasiment toute la saison. Donc pour moi, c'est gagnant-gagnant cette affaire.
Oui, donc c'est quoi, Clermont qui aurait pu être intéressé?
Ah, clairement, ça aurait pu être pas mal pour eux.
Un arrière, non mais en vrai, pourquoi
pas,
ça
aurait été pas mal.
T'as Amdaoui déjà.
Hamdaoui, Tan Yusom jusqu'en 2026.
Non mais attendez, arrêtez. Vous allez pas me dire clairement c'est pas une destination parce qu'il y a Kylian Hamdaoui. J'aime bien Kylian Hamdaoui, mais quand même.
Non, c'est parce qu'ils sont sous contrat, mais sinon très clairement Gabin Laure, je pense que Clermont prend toujours, tous les jours.
Après c'était peut-être un peu cher aussi.
Cher, tu penses?
Bah, il est encore sous contrat.
Ouais, ça va être combien? Ils vont débourser l'argent.
Faut payer la clause, quoi.
Le loup pour le loup, c'est pas trop un problème, hein, ce genre de choses.
En tout cas, tu dois avoir des salaires qui vont s'en aller. Si Radradra s'en va, tu vois, par exemple, t'as de la masse salariale qui se libère.
Puis tu perds un joueur qui, quand même, mêle un peu les poils, hein. Niniashvili, il fait un peu rugir. Gabin Laure, c'est un peu.
C'est un joueur frisson.
Ah bah, complètement. Ah,
bah, les deux.
Gabin Laure, tu sais qu'il va se passer un truc sur le terrain. Donc,
Après, c'est des joueurs que t'aimes voir jouer en plus. Hein.
Moi, je pense que c'est un très bon choix et je vois pas en plus qu'est-ce qu'il y aurait. Enfin, en se mettant à la place du loup. Voilà, je vois pas comment ça peut mal se passer. Puis si je me mets à la place du loup, est-ce qu'il y avait vraiment un meilleur candidat que Gabin Laure pour remplacer Niniashvili?
Parfait. Après, peut-être qu'il ne connaît pas le top 14 et qu'il va y avoir un peu d'adaptation, mais je pense qu'il sera bien épaulé quand même au loup.
On a peu de doutes quand même. Hein.
Ouais, ça devrait
être. On a très, très peu de doutes. Est-ce qu'il aurait pu aller ailleurs? Tiens, on va poser la question à Dorian Malvezan, direct de La Rochelle. Salut Dorian.
Salut Alex, salut à toutes et à tous. Bienvenue à Marcel de Flandre.
Est-ce que tu aurais mis Gabin Laure ailleurs, toi?
Sincèrement, je vous écoutais rapidement pendant que je fignolais un petit peu les infos pour le match de ce soir. Et je trouve que oui, c'est une belle destination pour lui parce qu'on sait que le Loup Rugby veut à nouveau passer un cap. C'était une équipe qui jouait le top niveau. Il y a eu une petite vague un petit peu en dessous et là, ça repart de plus belle. Il y a Baptiste Couillou qui a prolongé, peut-être Léo Berde derrière. Donc il y a une équipe qui est en train de se former, donc il peut rentrer dans une équipe à long terme dans cet effectif du Loup Rugby. Donc c'est une très belle destination pour lui. Après, j'entendais la ferveur. C'est vrai qu'on se rappelle de cette image quand il fêtait la victoire en Challenge Cup à Lyon où il n'y avait pas grand monde. C'est vrai, sur le parvis de la mairie. Après, c'est
la discussion Challenge entre Cup, les gars.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand monde.
Oui, c'est clair. Non plus, et tu peux pas. Enfin, je ne peux pas discuter.
j'ai pas entendu.
Ouais,
j'ai pas entendu ce que disait Antoine.
Il n'est pas convaincu par l'ambiance du loup.
Ah ouais, non mais d'accord, mais qu'on va pas dire que le Loup est le club qui a le plus de ferveur en top 14. Mais si t'amènes pas des joueurs comme ça, comment tu vas la chercher ta ferveur? Il faut des joueurs qui vont te faire rugir le stade. C'est...
Oui, mais t'es dans des grandes villes comme ça, tu le vois, le rugby n'est pas le sport numéro 1. Et...
T'aurais été son agent, tu l'aurais dit, franchement, tu vas te faire chier là-bas, t'aurais dit ça?
Non, je n'aurais pas dit ça parce que
Antoine prend l'exemple de Bordeaux-Bègles.
Hein. Donc l'UBB c'est plein tout le temps. C'est différent. Ah oui, mais Bordeaux parce que il n'y a plus le football, donc forcément t'as une ville où il faut que.
Ah ouais, donc Bordeaux, il y a de l'ambiance parce qu'il n'y a plus le foot.
C'est Nance Duquin qui l'a dit. C'est Nance Duquin qui nous l'avait dit avec François Trio.
Oui, mais au début de l'histoire de l'UBB, les journées étaient encore en Ligue 1.
Le mec il se met dans la sauce dans tout le top 14.
Bon, alors, quelle équipe il s'est pas mis à dos encore? Alors, parlons du Racing, Antoine.
Oh bah non, mais eux ils sont déjà. A priori, ils sont pas contents. Le Racing, c'est pas très content.
Ouais.
Voilà.
Ils ont peut-être pu prendre un arrière aussi.
Ouais, alors ils font jouer leurs arrières en 2000 mêlées. laissons faire. Voilà. Parce que à ce niveau-là, on aurait eu Gabin Laure talonneur dans 2 ans, ça nous aurait un peu emmerdé quand même. Parlons un petit peu du match de ce soir à La Rochelle Union Bordeaux-Bègles. Alors on fait des pronos dans l'équipe Sud Radio. Personne depuis le début de la saison n'a eu un score parfait sur les matchs du dimanche
ce qui
soir.
Change finalement quand on voit ce qui a été
dit ce soir. Pour devenir le dieu des pronos, il faut avoir le score parfait. C'est très partagé et même je dirais que une bonne partie du service rugby voit l'Union Bordeaux-Bègles peut-être plus fort ce soir que La Rochelle. Dorian, quel est ton avis toi?
Oui, j'ai pronostiqué Bordeaux-Bègles, je tiens à le préciser pour ce match. C'est vrai qu'il manque
21-14.
Ouais, exactement. C'est vrai qu'il manque un cadre tout de même du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a certains joueurs qui font leur retour. Il fallait faire une rotation du côté de Bordeaux-Bègles. C'est vrai que cette victoire face à Toulouse a permis à Yannick Bru de faire tourner ce soir à La Rochelle, parce que je vous avoue que l'UBB n'avait pas coché une victoire à Toulouse dans leur flèche du temps, comme dirait un certain Fabien Galtier. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé pour cette rotation avant un dernier match à Pau et un déplacement à Clermont pour Bordeaux-Bègles. Du côté de La Rochelle, c'est vrai que bon, l'effectif est magnifique, le groupe est magnifique, mais c'est vrai que Bordeaux pourrait peut-être faire quelque chose sur cette pelouse de Flandre avec certains joueurs clés qui pourraient réussir à amener cette équipe de Bordeaux-Bègles à la victoire.
Il y en a 7 sur les 14 qui ont donné leur pronostic qui donnent l'UBB gagnant.
Pour un match à l'extérieur, c'est beaucoup, hein, ah, 7, c'est hein, 7 sur 14. C'est, hein, c'est assez énorme. Moi, j'ai hâte d'être à 22h57 et avec Antoine Bazer, on va régler quelques comptes. Ouais, parce que, bon, on a vu des choses.
Surtout en pronos, on peut t'écouter.
Ah bah oui, ah oui, ah bah oui, ah oui. Attendez. Hier, il me dit, il faut que je trouve un pari. Je lui dis, bon, écoute, le Stade Français qui perd, qui fait nul ou qui perd, qui gagne, qui fait nul ou qui perd de moins de 7 points, c'est probable.
C'est gagné.
Bon, quand je vois que Castres prend le rouge, je fais, bon bah tu vois, on est bien.
Tu peux manger gratuit ce soir, tu m'as dit.
Ouais. bon, la suite de la soirée a été un peu plus difficile pour le Stade Français. On en parlera dans quelques minutes sur Sud Radio. Et il a pas mangé. Nourrissez-le, s'il vous plaît. Et quels sont les grands chantiers de la Fédération Française de Rugby? C'est dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, au cœur de la mêlée, à 45 minutes du coup d'envoi de ce match ce soir entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un président qui a été élu hier à la tête de la Fédération Française de Rugby, c'est Florian Grill. Sans grande surprise, hein, Florian Grill qui s'est imposé, je crois, avec 67,22% des voix. Il a battu son adversaire, Didier Codorniou. Mais alors, quels sont les grands chantiers de la Fédération Française de Rugby? Je vous en donner quelques-uns, vous pouvez évidemment en ajouter d'autres, et surtout vous allez me parler de vos priorités. Premier chantier, assainir les comportements et les dérives au sein du 15 de France, assainir les finances de la FFR, c'est le deuxième, et aussi remporter enfin une Coupe du Monde, point d'interrogation, peser dans les décisions de World Rugby ou aider le 15 de France féminin qui est alors en difficulté. On en parle avec tout le monde, avec Dorian Malvezin, avec Quentin Cabanis, Antoine Mazet, Renzo Jacquet qui veut s'exprimer en premier. Tiens, Dorian, quelle est l'urgence pour toi? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les grands chantiers de la Fédération Française de Rugby? Est-ce qu'il y a des priorités?
En grand chantier, il y a bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé en Argentine cet été, voir si on va changer pas mal de choses, notamment dans le comportement des staffs, s'ils vont être un peu plus dans la rigueur, s'ils vont être plus dans la surveillance dès la tournée d'automne et plus dans le tournée de destination. Il y a aussi également le rugby amateur.
A priori, Raphaël Ibanez va être attaché un peu à cette tâche, hein. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas aussi le rôle d'un manager aussi de faire ça? Il y a les team managers dans les clubs qui chapeautent un peu ça, donc peut-être c'est un rôle qui peut convenir à Raphaël Ibanez. Il y a aussi le rugby amateur aussi qui est en grande souffrance aujourd'hui, on le voit, c'est vrai qu'il y a certains clubs qui n'arrivent pas à suivre financièrement quand on monte de niveau supérieur, surtout même quand on descend en niveau inférieur. Il y a des clubs qui font en ce moment beaucoup de dépôts de bilan, c'est qu'il y a une création peut-être d'une pré-fédérale entre la Fédérale 3 et la Régionale 1 aujourd'hui, c'est en discussion avec les équipes de Florian Grill. Donc il y a un grand chantier là-dessus, bien sûr sur les écoles de rugby, mais moi je vous avoue, pour l'instant, pour côtoyer pas mal d'équipes au monde de rugby amateur en Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu ça la priorité aujourd'hui, et bien sûr les finances de l'équipe de France, enfin de France Rugby aujourd'hui, qui va pas du tout bien.
Antoine Mazer, quels sont les grands chantiers selon toi de la Fédération Française de Rugby? Est-ce qu'il y a des priorités, des urgences?
Ouais, alors les urgences, bien sûr, on a parlé. Alors t'en as pas forcément parlé, mais tout ce qui va être lié aux commotions, c'est un sujet qui est très important, mais ça va un petit peu aussi dans les décisions de World Rugby. Je vais le mettre ensemble, parce que les décisions, notamment quand on fait des débats sur le carton rouge de 20 minutes ou les nouvelles règles qui arrivent, les nouveaux tests qui arrivent, ça vient toujours d'un côté, ça vient toujours d'un camp où depuis le 13 décembre 2022 et la mise en retrait de Bernard Laporte où il était vice-président de World Rugby, la France n'a plus son mot à dire dans les décisions de World Rugby, n'a plus son mot à dire dans les décisions arbitrales, dans les nouvelles choses qui sont mises en place. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème quand on a peut-être le meilleur championnat du monde, quand on a toutes les stars qui viennent chez nous, et quand on a un rugby qui aujourd'hui est ultra médiatisé, et que quand on arrive au niveau international, c'est plus les mêmes règles et on a du mal à s'adapter. Alors, il y a un énorme travail qui est fait, on l'a dit, avec Mathieu Reynal, Romain Poit et la nouvelle cellule mise en place par la FFR. Il y a sûrement peut-être aussi cette élection d'Abdelatif Benazi à World Rugby qui pourrait là aussi insouffler quelque chose de nouveau et une nouvelle page pour le rugby français et pour les nouvelles règles aussi également pour l'évolution du rugby international. Donc je pense que cette priorité là, elle a été
pesée. Donc à l'échelle internationale, pour toi, c'est une priorité. Il faut absolument revenir dans les discussions.
Exactement.
Ok, c'est noté. Voilà. Mais comme tu le disais si bien,
Belhati Benazi qui est aussi.
Voilà, et la santé des joueurs, en même temps, la vision de la France du rugby, c'est de mettre la santé des joueurs en 1, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les nations, semble-t-il, dans le concert international.
C'est pour ça que j'ai rejoint.
C'est pour ça que pour toi, il faut plus peser dans les décisions de World Rugby. Bonsoir Ludovic, de Mont-Marsan. Salut Ludo.
Salut équipe.
Comment ça va?
Oh, bah écoute, ça va. Après une belle victoire hier soir, tout va très bien.
T'étais à Pau en plus,
du
non?
Du stade toulousain du côté de Pau, et t'étais au Hameau, ouais.
Ouais, il paraît. Ouais, j'étais au Hameau avec les supporters du stade, dans une très belle ambiance. Au Hameau, avec d'excellents supporters à Pau, un excellent accueil. Bon, même s'ils ont sifflé notre buteur, mais c'était un super moment.
Alors, quels sont, selon toi, les grands chantiers de la Fédération française de rugby, Ludovic? Est-ce qu'il y a des priorités?
Ouais, je rejoins Antoine sur la nécessité de porter la parole au sein de World Rugby. On l'a vu après la dernière Coupe du Monde où on a appris qu'on n'avait pas de représentants au sein de l'institution et que ça posait problème. Et bon, sans jouer complotiste, certains disaient que voilà, on ne pesait pas assez pour prétendre pouvoir gagner la Coupe du Monde.
Donc pour toi, comme Antoine, peser beaucoup plus dans les décisions devant le rugby?
Oui, tout à fait. Concernant ce qui s'est passé en Argentine, je pense que c'est juste un cadre à remettre en place, ça peut être vite fait, mais c'est aussi peut-être une histoire d'éducation et de respect déjà avant tout, et qui se fait en amont du cadre. Donc mais la priorité pour moi est vraiment de peser davantage au niveau de World Rugby.
De redevenir une nation forte du rugby, quoi. Une nation forte,
c'est
une nation qui pèse.
Ouais, mais une nation forte aussi, ça peut être une nation qui remporte une Coupe du Monde et qui, du coup, est forcément plus écoutée. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être aussi plus le sportif, Quentin.
Moi je suis d'accord aussi sur le plan que c'est important de compter sur le plan mondial dans le rugby, mais je pense aussi que c'est important de travailler sur le fait de compter le plus dans le sport en France, notamment dans le sport scolaire, de capitaliser sur la Coupe du Monde qu'on a eu chez nous, sur le succès des Jeux Olympiques, et je pense que c'est important de capitaliser là-dessus. Florian Grill nous disait qu'ils allaient donner des ballons aux écoles, mais juste filer un ballon à une maîtresse, ça suffit pas pour lui faire du rugby. Je veux dire, c'est bien mignon, mais je pense que c'est un sport qui mérite d'être encadré un petit peu plus, et je pense qu'il faudrait faire plus de passerelles entre l'école et le rugby pour ramener, pourquoi pas, des nouveaux licenciés, parce qu'on est le rugby, c'est un des sports les plus médiatisés en France, mais aujourd'hui tu t'es fait doubler en nombre de licenciés par le basket par exemple, tu vois, t'es pas le sport
8e sport, je crois,
voilà, tu vois. Alors qu'en termes de médiatisation, tu dois être le deuxième. Donc moi, je pense qu'il y a un manque de capitalisation justement sur cette médiatisation et sur les succès français, notamment aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a un travail à faire, notamment sur le scolaire.
Enzo?
Ouais, pour changer un peu de thématique, moi, plus revenir sur le rugby féminin, Florian Grill en avait parlé d'ailleurs hier à l'antenne. Donc c'est vrai qu'on a une équipe de France qui a un peu plus de mal maintenant à l'échelle internationale, avec notamment on a un championnat Elite 1 où il faut donner un peu plus de compétitivité, que les filles puissent toucher un peu plus déjà pour qu'elles soient professionnelles.
Qu'elles soient toutes avec le statut pro, ouais.
Ouais, qu'elles puissent s'inscrire à 100% dans ce rugby-là, comparé aux Anglaises. On a dit on avait du retard, donc ouais, c'est un élément à prendre en compte pour s'améliorer au niveau de la Fédé.
Non mais j'entends, alors tous ces sujets là sont très importants. Est-ce que on peut estimer qu'une équipe de France qui est championne du monde en 2027, ce sera donc un bon mandat de Florian Grill? Est-ce qu'il est aussi le mandat de Florian Grill est conditionné aussi au résultat du 15 de France?
C'est pas parce qu'on est champion du monde que son mandat sera bon, et c'est pas parce qu'on l'est pas qu'il sera bon.
Antoine dit oui.
Oui, mais pas forcément. Ça veut pas forcément dire aller chercher un titre. Les équipes de France. J'ai envie de dire les équipes de France. Il y a pas que le 15 de France masculin, parce qu'il y a ce qui va se passer.
Bien sûr.
Parce que si l'équipe de France demain, l'équipe de France est championne du monde en 2027, mais que les filles redescendent parce qu'ils sont en train de redescendre à un niveau qui, là, ça fait très longtemps que le rugby féminin, je trouve, n'a pas été aussi en difficulté, que le rugby à 7 n'arrive plus à performer, et que par contre les garçons ça fonctionne. Je trouve que ce sera pas réussi. Par contre, si on arrive à faire progresser chaque nation dans sa discipline, ça veut dire que les garçons, ils ont pas réussi à atteindre les les demi-finales depuis un petit moment, si déjà en 2007 on va en demi-finale, si les filles elles aussi elles arrivent à aller chercher une demi-finale ou une finale, si on arrive à aller chercher encore un nouveau titre chez les garçons en rugby à 7, je trouve que si on arrive à faire progresser chacune des équipes à son échelle, là il aura réussi à aller chercher un titre. Bon, ça des fois ça tombe sur la bonne année, les bons joueurs, ça c'est des facteurs qu'on maîtrise pas forcément, et encore moins je pense un président, c'est pas lui l'entraîneur.
Moi je
mais ça va être de faire progresser chacune des équipes à son échelle.
Là où je suis d'accord avec Antoine, c'est le côté Florian Grill, c'est pas le sélectionneur de l'équipe de France non plus, donc sur le sportif il a un rôle moins impactant. Moi je pense que là ce qui est important et là où on va l'attendre, c'est que à lui de capitaliser sur la locomotive de l'équipe de France pour faire évoluer le reste, justement pour faire évoluer le rugby amateur, pour pas laisser certains clubs mourir dans le rugby amateur pour des raisons économiques et tout donner sur l'équipe de France. Pour moi, l'équipe de France, c'est une locomotive, mais ça ne doit pas être le seul objectif et on ne doit pas tout mettre pour l'équipe de France. Je pense qu'elle doit servir de moteur pour le reste du rugby.
Notamment financièrement.
Notamment financièrement.
Ça, ça, c'est lui qui va donner la ligne directrice, hein, clairement. Donc les résultats dépendront de la ligne directrice également.
Voilà, c'était la question qu'on voulait se poser. D'ailleurs, tiens, Florian Grill, hier sur notre antenne, il était notre invité à 19h30. Il a rappelé eh bien qu'il souhaitait que le clan concurrent rejoigne ce bureau stratégique. On l'écoute.
On a inscrit maintenant dans les statuts, ça n'avait jamais été fait préalablement, un minimum de proportionnalité dans le bureau fédéral qui devient un bureau stratégique. C'est un changement sémantique, mais enfin, c'est le même principe. Et donc, Didier Codorniou est bienvenu dans ce bureau s'il le souhaite, si ça correspond à ses envies. Voilà, je vais passer le message et j'espère qu'il saisira la balle.
Voilà, l'esprit d'ouverture en tout cas de Florian Grill. Est-ce que ce sera
c'est de la façade,
suivi de faits? Bah, pourquoi pas, enfin, non, je sais pas. Après c'est toujours des phrases un peu politiques. Mais je suis pas sûr que ça se fasse non plus, mais bon, on verra comment ça se déroulera dans ce bureau stratégique de 38 membres. Dans un instant sur Sud Radio, on va se poser la question: quels sont les grands enseignements de cette 7e journée du Top 14? Et il y en a eu pas mal. À tout de suite.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, on est un peu plus d'une demi-heure maintenant du coup d'envoi de ce match entre le Stade Rochelet et l'Union Bordeaux-Bègles, l'ultime rencontre de la 7e journée du Top 14. La 7e journée, justement, on va en parler avec Mickaël. Salut Mickaël.
Bonsoir Alexandre.
Comment ça va Mickaël?
Ça va très bien, ça pourrait aller mieux si l'Arsenal faisait des meilleurs matchs et ramenait des points à la maison.
Mais... on va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, voilà. Mickaël. Reste avec nous. On est avec Ludovic de Mont-de-Marsan aussi. On est avec toute l'équipe. Antoine, rappelons les résultats de cette 7e journée du Top 14 avec eh bien 0 victoire à l'extérieur, c'est ça? Il me semble qu'il n'y a pas de victoire à l'extérieur.
Une.
Ah si.
Mais la Stade Toulousain, tu l'as oublié.
Ah bah alors.
Alexandre.
Oui, je l'ai oublié.
Comment on peut oublier le Stade Toulousain?
C'est pour piquer les Toulousains. 0826 300 300.
Tu vas pas te faire des amis. Et ça avait commencé bien sûr avec l'Aviron Bayonnais qui s'est imposé face au Racing 92-32-15. Le large succès de l'ASM Clermont-Auvergne face à Vannes 55-33. La victoire de Castres face au Stade Français 35-13. Le succès de Toulon face à Montpellier 30-17. La victoire de Perpignan face à Lyon 29-26 et le succès donc du Stade Toulousain sur la pelouse de la section paloise 22-14.
Voilà donc pour les résultats. Alors il y a forcément des enseignements à évoquer avec vous sur Sud Radio dans Au cœur de la mêlée. Je vous en propose quelques-uns. Le Racing 92 et Paris, l'Île-de-France en souffrance. C'est littéralement un copier-coller de la semaine dernière. Ensuite, eh bien, il y a cette idée-là aussi de Castres. Est-ce un match référence pour le Castres Olympique? Vannes fait peu tourner pour tenir la cadence, mais s'écroule tout de même en fin de match, et c'est pas la première fois. Autre enseignement, l'USAP, est-ce que c'est toujours au caractère véritablement qu'il gagne les matchs? Est-ce que ça peut durer? Et puis enfin, le dernier enseignement, Toulouse en mode rouleau compresseur. Qu'est-ce que vous mettez en lumière? On commence par toi, Ludovic de Mont-de-Marsan.
Écoute, en effet, les clubs franciliens sont assez mal. Bon, au niveau du Racing, je ne sais pas si la méthode de Lancaster porte ses fruits.
Méthode quoi? Méthode Lancaster.
Ouais, Racing, ouais.
Moi, j'ai pas reçu le mode d'emploi.
Ouais, c'est c'est assez bizarre cette équipe du Racing avec les éléments qu'elle a, qu'elle n'arrive pas à avancer. Bon, le Stade Français qui reprend une roue, c'est-à-dire que Castres joue à 14 également. Et après, bon, pour avoir vu le match en direct, le Stade Toulousain, bon, qui avait ciblé ce match, hein, j'ai des amis à section paloise qui me disaient il faut museler Dupont, il faut empêcher de rentrer dans le stade, etc.
Ben,
le Stade
bon
Toulousain,
courage.
Ouais, le Stade Toulousain était tout en maîtrise, même si bon, ils ont manqué de précision par moment. Et on a vu également au sein du Stade Toulousain un grand Jacquouis dans le combat, dans le jeu, voilà, qui a été également énorme.
Toi, tu mets quand même en lumière ce Stade Toulousain en mode rouleau compresseur. On pose aussi la question à William. Salut William de Brive.
Salut, bonsoir.
Quel est le grand enseignement de cette septième journée selon toi?
Eh ben moi j'ai bien aimé le Castres Olympique, quoi, parce que donc réduit à 14 rapidement, qui a su être costaud devant, battre le Stade Français, bon, qui est peut-être pas la grosse équipe du top 14 en ce moment, mais à aucun moment il tremble. Et puis à un moment où le top 14 ben, s'uniformise, tout le monde joue un peu pareil. Je trouve que c'est cool de temps en temps d'avoir ce petit village gaulois là qui garde son fonctionnement.
Non mais attends, tu vas pas nous refaire le truc de sous-préfecture de club de sous-préfecture.
Ouais, c'est factuel quand même.
Pas de politique, mais c'est vrai que sur le fonctionnement, c'est toujours intéressant de voir jouer Castres. Et on a toujours l'impression, en fait, que c'est l'année de trop. En début de saison, on a l'impression qu'ils ne seront pas dans le coup parce que les recrutements sont bons.
Cette année, il a été monstrueux.
Mais là, ils s'en sortent très bien avec un demi de mêlée là, qui s'impose, qui était le deuxième choix en deux ans.
Et puis qui a pris la place d'Arrasta, finalement.
Mais c'est énorme ce qu'il fait ce jeu-là. Donc bon,
vous croyez vraiment qu'Arata il va pas reprendre son poste rapidement là?
En tout cas, il joue pas beaucoup cette saison.
Numéro 4 dans la hiérarchie d'après Ronan O'Gara.
Michael, qu'est-ce que tu mets en lumière toi dans ces enseignements de cette 7ème journée alors?
Bah, moi, étant breton, je vais d'abord parler de mon club, évidemment. Le RC Van, une nouvelle fois défait donc à Clermont, qui prend une grosse rouste,
55-33.
Ouais, c'est dur encore. On espérait.
Ouais, mais pourtant, le RCV est au contact pendant un bon petit moment, quand même.
Ouais, voilà, jusqu'aux deux cartons jaunes, et puis après, il s'écroule totalement, quoi. Voilà.
C'est quoi, 57e Calamafoni, 58e Jules Lebaille, et là ça part en sucette.
Voilà, Calamafoni qui prend à la gorge le petit jauneau, là, il est pas bien grand, mais bon, lui faire une savate comme ça, n'importe quoi. Et ensuite Lebaille qui écroule un moule, là, et puis voilà, après c'est la débandade.
Lebaille qui écroule un moule, c'est vrai que c'est quand même un demi de mêlée qui écroule un moule, c'est quand même qu'il y a un problème. C'est vrai que ça fait bizarre comme phrase. Mais ce que je comprends pas à Vannes, et on s'est un peu posé la question hier, Antoine. Je trouve que le RCV fait peu tourner et en fait ce choix-là n'apporte pas beaucoup de résultats à l'extérieur.
Alors ils ont quand même récupéré 3 bonus en 3 déplacements. C'est le seul déplacement, ils ne rappellent pas de points, mais tu as l'impression que physiquement il y a cette densité-là du top 14 qui est terrible, quoi. On a discuté avec François Trio, à partir de la 60e, tu as l'impression qu'il reste très limité et qu'il manque 20 minutes de match à chaque fois pour aller chercher plus. Pour aller chercher plus et t'as l'impression que aussi ils usent beaucoup sur les titulaires. Alors l'effectif il est quand même assez monstrueux, mais j'en ai espéré dire, il inscrit sur la feuille de match, t'as l'impression souvent les mêmes visages et les mêmes têtes et que malheureusement, alors j'ai envie de dire vive peut-être les doublons et la Coupe d'Europe pour vraiment faire tourner et aller chercher un nouveau souffle,
tu vois on note les bonus défensifs au Stade Français à Montpellier, mais enfin on est sur deux équipes malades quand même. Ah, mais par contre à Toulon et à Clermont tu en prends 54 et 55, c'est quand même
quand ils perdent pas à moitié, hein.
C'est ça que je me dis,
à chaque fois ils explosent à 20 minutes de la fin, quoi. C'est à la 60e, ils sont dans le match partout. À Toulon ils sont dans le match, à la 55e ils se passent devant, tu vois. Là
qu'ils mènent même à la mi-temps.
Ouais, et à Clermont ils passent devant aussi.
Ils sont bien jusqu'à la 54e, je crois.
Et surtout c'est que dans le jeu ils sont capables de faire des choses extraordinaires dans le jeu. Ils sont capables de vraiment faire des schémas de jeu, des combinaisons pour mettre en difficulté ces équipes-là. Mais t'as l'impression que dans la densité physique des fois, et puis des erreurs, ouais, il le disait, hein, Mickaël, des erreurs qui coûtent très très cher de joueurs importants comme Calamafoni qui fait cette faute-là, de carton jaune. Après tu te retrouves à 13. Le rugby pardonne pas. Hein.
On est avec notre consultant. Bonsoir David, sélectionneur de la Roumanie, David Gérard.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir à tous.
Comment t'expliques ce début de saison de Vannes et ces claques à l'extérieur là?
Comment je l'explique? Alors déjà, on va pas se mentir, il y a un petit gouffre entre la Pro D2 et le Top 14. Nos amis Vanté, ils ont fait recrutement assez minutieux. Ils n'ont pas recruté en masse, donc ils ont fait confiance à une base de joueurs qui ont connu la Pro D2. Et quand tu joues à domicile, tu as tendance à te transcender, poussé par le public. Et en fait, si l'équipe en face de toi commence à déjouer, tu te nourris de ça et tu arrives poussé par le public à retourner des situations et à gagner des grosses équipes comme leur victoire face au Loup. À l'extérieur, tu es très dépendant de l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire qui joue chez lui veut te dominer et commence à t'appuyer la tête et à te la mettre sous l'eau, tu as moins de regains affectifs, tu as moins, tu vois, d'énergie pour te battre, si tu veux. Et le truc de Van, c'est qu'ils ont de l'énergie, mais à un moment donné, à la 50e, entre la 50e et la 60e, il y a quelque chose qui casse. Parce qu'en fait, c'est le Top 14 et eux, ils montent de Pro D2. Et il y a une grosse différence. Donc, il faut pas leur en vouloir, ils font le maximum. Ils se sont accrochés, mais à un moment donné, il y a des faits de jeu qui font que ben, ils lâchent complètement. Et là, ça a été le cas clairement. Hein.
Ah bah ça c'est clair, la seconde période elle était à sens unique dès là, parce que c'est vrai qu'en plus il y a un essai d'Ayarza à la 80e, mais bon il est un petit peu entre guillemets anecdotique. Quant à Cavani, qu'est-ce que tu choisis comme enseignement avant de basculer vers en haut de l'affiche?
Bah moi je vais forcément parler des deux clubs franciliens qui sont très inquiétants. Vous soulignez tout à l'heure la performance du Castres Olympique, mais moi c'est plus la contre-performance du Stade Français qui m'inquiète. Quand t'es t'as un joueur de
supériorité
plus
numérique.
Oui, c'est ce que je cherchais, merci Alexandre d'être au soutien. Mais ouais, quand t'es en supériorité numérique pendant 60 minutes et que tu peines comme ça à créer du jeu, à te montrer dangereux, qu'en plus t'as un buteur qui est très défaillant depuis le début de la saison, là il a manqué des transformations vraiment très faciles, Carbonel, donc ça c'est aussi inquiétant. Et du côté du Racing 92, et bah y a rien à dire finalement, parce qu'il y a rien à voir pour l'instant, c'est assez horrible ce qu'on voit. Donc moi je suis assez inquiet pour les deux clubs de la région parisienne, et il y en a peut-être qui vont devoir regarder quand même sérieusement derrière jusqu'à la fin de la saison. Je pense que notamment le Stade Français, si j'étais supporter du Stade Français, je serais très inquiet à ce moment-là de la saison.
Le Stade Français joue le maintien. Est-ce qu'on peut avoir ce discours-là?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il joue le maintien. Ouais.
Parce que quand on regarde, hein, notamment les déclarations en conférence de presse d'après-match, on a des joueurs du Stade Français Paris qui font quand même clairement état d'une équipe qui va pas bien. Laurent Labitte qui parle hier de chaque match avec son lot d'insatisfaction. On fait toujours des erreurs dans notre système défensif. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à combler le retard qu'il y a parmi notamment les nouveaux entrants. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont pas très très positive du côté donc du Stade Français Paris, et là-dessus moi je te rejoins. Quand on regarde un petit peu les réactions qu'on a eues hier au micro de Sud Radio, il y a eu aussi moi je trouve une phrase et un regard intéressant de la part de Johan Codulo, parce que Montpellier aussi joue probablement le maintien, et Johan Codulo hier et son équipe de Montpellier, bah, ils tiennent tête hein, quand même longtemps à cette équipe du RCT, et ça n'a pas souri au final. On écoute Johan Codulo, micro de Mathias Merlo.
Moi je trouve que stratégiquement on est en place, on a mis des choses en place et ça se voit et ça marche. Maintenant il faut qu'on arrive à être là-dessus pendant 80 minutes. On peut pas se permettre de sauver une touche comme on l'a fait, et 7 points derrière. On peut pas faire des erreurs comme ça de cadets qui nous mettent dans la nasse, quoi. Et aujourd'hui, 0 point aujourd'hui, c'est un gros gros échec.
Un gros échec donc pour le MHR. Est-ce qu'on met dans le même panier, c'est un gros panier, hein, le Racing, le Stade Français Paris et Montpellier, Mickaël?
Non, moi je mettrais plutôt...
Et d'ailleurs, on peut inclure peut-être Van dedans.
Ouais, la lutte pour la 13-14e place, ça va être entre Montpellier et Van. Je pense que les deux équipes parisiennes vont quand même s'en sortir au vu des effectifs. Jean-Noël Pizzer, lui, vise la 13e place. Mais ouais, je pense que ça va se jouer avec Montpellier, moi. Mais voilà, on aurait dû aller gagner à Montpellier. C'est dommage de ne pas leur avoir mis la tête sous l'eau. Il y a une semaine là-bas, on s'en mord encore les doigts. On aurait dû prendre les 4 points. On les a pas pris, mais je pense pas que les équipes franciliennes seront à la lutte pour ne pas descendre, vu les effectifs, à mon avis, ils vont se refaire la cerise. À un moment donné ou à un autre, c'est pas possible autrement, quoi.
C'est vrai que hier, là, le ton quand même de Johan Codulo, il est un peu inquiétant. J'ai l'impression qu'il baisse un peu déjà les bras, David, là.
Bah, un petit
on
peu,
est à la septième journée. Hein.
Un petit peu, je trouve que le négatif se nourrit du négatif, en fait. Et là, tu t'aperçois que très rapidement, il y a état d'alerte. Et aujourd'hui, Montpellier, ils sont en état d'alerte depuis un an et demi à peu près. Ça fait un an et demi qu'ils sont en état d'alerte, qu'ils sont en crise, que... Et quand je te dis un an et demi, encore je suis gentil. Mais là, ça fait un an et demi qu'ils broient du noir. Et aujourd'hui, ça va être encore une saison galère hein, qui va être offerte aux Montpelliérains. Tu vas avoir un combat à deux pour moi entre Montpellier et le Stade français sur cette avant-dernière place. Parce que Van s'accroche, Van est courageux, mais je pense qu'il y aura un petit décalage. Un petit décalage avec Stade français et Montpellier, qui a une profondeur d'effectifs et des joueurs plus, tu vois. Qui vont arriver à un moment donné à grappiller des points importants. Mais c'est vrai que Montpellier, je le sens très défaitiste. En fait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est cassé et tu te demandes qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'ils vont encore changer de staff? Est-ce qu'ils vont encore ramener une constellation de stars comme ils veulent faire déjà pour l'an prochain avec l'arrivée d'un numéro 9 All Black et de Burn, le 10 irlandais, du Leinster? Avant de penser à ça, il faut penser déjà au présent. Le futur, ça viendra en fonction du présent. Là, ils vont perdre des joueurs majeurs déjà. Simon se veut partir. Ils se projettent trop vite vers le futur. Alors que là, il se passe quelque chose encore. Tu vois, ça marche pas. Pour moi, la greffe ne marche pas pour l'instant.
Ouais, et on est plutôt inquiet pour cette équipe du MHR. Merci Mickaël d'avoir été avec nous. Merci Ludovic de Mont-de-Marsan d'avoir été sur Sud Radio pour parler de rugby. Merci les gars. On va basculer dans un moment qui est toujours très très attendu sur Sud Radio. C'est en haut de l'affiche.
Vous voyez déjà en haut de l'affiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. Vous voyez déjà.
En haut de l'affiche, c'est quoi? C'est 7 matchs. Et pour même être précis, c'est 6 matchs. Puisque 6 matchs se sont déjà déroulés. Et il faut déterminer quelle était la meilleure affiche de cette 7ème journée du top 14. Vont participer ce soir William, tenant du titre depuis vendredi. Et il est en grande forme, hein, William. Il y a Enzo aussi qui va participer. Il y a Antoine, il y a Dorian, il y a Quentin. Et monsieur le juge, ce soir, monsieur le grand arbitre de en haut de l'affiche, David Gérard. Qui va donc eh bien tailler dans ce en haut de l'affiche de la 7ème journée du top 14. Qui va être le premier à s'élancer, David? C'est à toi de choisir. Tu fais l'ordre de passage puisque tu es le prince du en haut de l'affiche.
Je dirais Antoine.
Oh, j'aime bien. Antoine.
Ça va, confiance.
David, Antoine, il a un petit sourire. Antoine, je te conseille de mettre le casque pour avoir l'habillage parce que ça va être long. Quelle est
ça va être long,
la durée?
Ça va peut-être être très court, hein, on sait jamais.
Ça m'arrive pas. On rappelle, il y a un tirage au sort. Soit il va faire 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute ou 1 minute 15. On a mis en place ce tirage au sort pour pas que les participants ne préparent trop leur plaidoirie. Quant à Kemanis, tirage au sort.
45 secondes pour Antoine Mazer.
C'est pas mal. 45 secondes, on est dans les clous de la normalité. Il est en train de se mettre son chrono sur son téléphone.
Pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche, qu'il n'y ait pas de corruption, voilà, on vérifie.
Voilà, non mais t'as raison. C'est ton droit. Tu vas défendre quelle affiche? Il nous faut le score dans ta plaidoirie. C'est parti, 45 secondes.
Et je vais défendre Castres qui recevait le Stade Français Paris, un match aux antipodes avec une équipe du Stade Français Paris qui, la confiance, elle n'est pas là. Mais avec une nouvelle version, Paul Gustard arrive aux commandes, alors on se dit que le Stade Français Paris peut réagir. C'était tout l'inverse. C'était sans compter sur un Castres olympique qui a renclenché la marche en avant après une défaite face à la section paloise, mais une prestation magnifique face au Stade Toulousain. On voulait voir ce CO confirmé à domicile. Alors on a eu un Léoné Nakarawa une nouvelle fois inspiré, un Gaëtan Barlow une nouvelle fois renversant, et on a vu des Castrés casser la bouche des joueurs du Stade Français Paris. Parce que même s'il y avait ce rouge de Kokadji, les joueurs du Castres olympique ont réussi à mettre la marche en avant pour s'imposer largement 35-13.
Très bien Antoine. Qui est le prochain?
J'ai donné le score.
Et t'as donné le score à la fin.
Joli.
Qui est le prochain à s'élancer, David?
Enzo.
Enzo.
15 secondes.
Très bien. Non. Enzo, tirage au sort du temps.
Le tirage au sort du temps est fait. Et Enzo, ça va te changer.
Ah non.
Parce qu'il y a en effet 15 secondes. Mais avant les 15 secondes, il y a possiblement... L'enfer.
Une minute quinze. Oh là là, 1 minute 15 pour Enzo. Donc, tu vas devoir nous donner le résultat de ton affiche et surtout la composition de ton affiche. C'est parti, go!
Eh bien, pour ce en haut de l'affiche, j'ai tout simplement choisi Clermont contre Vannes.
Il parle doucement.
J'ai choisi Clermont contre Vannes parce que sur le papier, une équipe offensive à domicile contre un promu décomplexé à l'extérieur, on le sait. Et bien, au vu du score, on peut dire qu'on a eu ce à quoi on pouvait s'attendre. Une victoire 55-33 pour Clermont. 9 essais inscrits à 3 avec de superbes essais, des individualités des deux côtés qui sont montrés. Et une équipe bretonne, toujours fidèle à elle-même, qui envoie du jeu décomplexé, qui a accroché les SM jusqu'à la 60e minute de jeu. Et encore une fois, elle a craqué comme sur chaque déplacement. Et Clermont a su appuyer là où ça fait mal, simplement, notamment sur la conquête.
30 secondes.
Un Clermont offensif à la maison qui offre le bonus à son public venu en nombre dans un match prolifique.
Elle pourrait être longue, ces 30 secondes.
Il n'y avait que du bon dans ce match, surtout quand on est supporter de Clermont. Et je passe le coucou à Mickaël, le supporter de Vannes. Et 15 secondes où je peux chanter un petit truc si vous voulez.
Waouh! Est-ce qu'on se laisse les 10 secondes comme ça, là, de vide?
Oui, peut, bah, bien
franchement.
Sûr.
Franchement, on aurait dit Thalassa.
Et Thalassa, bon. Pas à son prime.
Thalassa malade. Hein.
Ouais, Thalassouche. Le Thalassa. Ouais.
Il reste donc Dorian, William et Quentin qui doivent s'illustrer. David, qui est le prochain?
Allez, Dorian.
Allez, Dorian.
Dorian Malvezin, en direct de La Rochelle. Dorian, quelle durée tu vas faire?
Quentin,
il est en roue libre. Mais non, c'est trop.
Une 15.
Oh là là, une 15.
Sur ce match.
Oh là là. Bah, non, tu le vends bien, toi, ton match. C'est bien, ça.
Avant de démarrer.
Oh bah, ça promet.
Même barque.
Je te signalerai aussi quand il te reste 30 secondes, comme ça, tu te rendras compte, tu te diras, ah, encore 30 secondes.
Ok, ça marche.
Bon, on y va, Alexandre ?
C'est parti. Allons-y.
Je défends bien sûr cette belle affiche que nous avons vécue sur Sud Radio, la radio du rugby à 14h30 entre l'Aviron Bayonnais et le Racing 92 avec un merveilleux Arnaud. Et Bayonne qui enchaîne en top 14 après une belle victoire torpillée face à La Rochelle à Noëtta, un stade qui depuis quelques années ne réussissait pas au Basque, a réussi à gagner 37-7. Elle gagne une nouvelle fois à Jean Daugé face à une équipe du Racing 92 soi-disant cadre de ce top 14, en tout cas sur le papier. Aujourd'hui c'est très compliqué pour les Racingmen. Victoire 32-15. On voit une équipe de l'Aviron Bayonnais réussir à jouer sans un certain Camille Lopez. C'est vrai qu'on disait depuis plusieurs saisons que Bayonne n'arrivait pas à remporter ses matchs, n'arrivait pas à faire quoi que ce soit sans Camille Lopez. Peut-être que Grégory Pata a trouvé une équipe, notamment depuis l'Union Bordeaux-Bègles. Elle torpille ses équipes, elle broie ses défenseurs depuis quelques matchs avec un certain Cyrilli Makala qui est incroyable avec 6 essais depuis le début de saison. Bayonne peut faire quelque chose pour la suite du championnat et pourquoi pas finir dans le top 6 en fin de saison pour tenter de faire quelque chose, notamment en barrage ou aller plus loin. Cette équipe de l'Aviron Bayonnais maintenant à confirmer à l'extérieur.
C'est dur, qui 1 minute 15 c'est facile apparemment. Il reste William et Quentin. Qui s'élance William. Oh là là, William, le tenant du titre.
Allez,
William, combien de temps va devoir-tu faire?
Alors, combien de temps va devoir faire William? 30 secondes pour William.
Oh là, c'est classique pour William. William, 30 secondes pour défendre. Quelle affiche?
Ben pour Toulouse, bien évidemment, parce que c'est l'affiche de la semaine. On a assisté à un fait historique. Antoine Dupont n'a pas marqué. Antoine Dupont ne marque pas, mais les Stades Toulousains gagnent quand même 22-14 sur la pelouse de la section paloise. Côté palois, l'analyse elle est plus raide, c'est plus froid. Quoi. L'examen de passage, en tant que candidat au top 6, il est clairement manqué. 3 essais d'avant pour les Toulousains qui nous montrent que le rugby aéré ou flamboyant, ben, il commence toujours devant avec une grosse conquête. Il y en a eu pour tous les goûts. Et moi, en tant que fan de rugby, un match avec le merveilleux Paul Coste, titulaire au poste de 3 quarts centre, c'est toujours l'affiche du week-end.
Bah, il est sorti tôt dans le match quand même. Hein.
Mais il était titulaire.
Quentin, mais qu'est-ce que c'est que ça là, Quentin? Mais, non, mais tu n'as pas le droit de faire ça.
C'est de la déception. C'est de la déception pour la Fantasy League. Parce qu'il est sorti sur protocole.
Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Quentin, tu vas être le prochain à t'élancer.
De toute façon, je suis le dernier, j'ai pas le choix. Hein. 45 voilà. secondes.
Ah mais attends, quelqu'un a plus vérifié ça?
J'ai pas été vérifié, j'ai pas été vérifié.
Non, non, alors non, je suis pas d'accord. Non, on va refaire avec Antoine qui surveille. Vas-y Antoine.
Ok, bah,
Antoine, Antoine est en train de s'élever dans le du studio, il va voir la régie.
Le verre était sur 45 secondes.
Petit non, j'ai une chance.
Waouh. Allez, refaire.
45 secondes.
Merci. Très bien. Ok. Parfait. Okay. Bon.
Il, donc, a, voilà, il a eu 45 secondes.
Bah, j'ai pas triché et j'ai rien préparé. Donc de toute façon.
Quant à Cavanis, oui. C'est parti.
Allez, c'est parti. 45 secondes pour défendre cette affiche entre l'USAP et le Loup Rugby. Pour moi, c'est l'affiche qui a eu le plus de suspense dans cette journée. C'est l'affiche qui était la plus sympa à suivre finalement, avec un score final extrêmement serré. Quelques points d'écart seulement entre les deux équipes à l'issue de cette rencontre. Ça a démarré d'abord avec un duel de buteurs. Tomasso Allan d'un côté, et puis de l'autre côté, Léo Berdeux, le meilleur buteur du championnat. Mais il y a quand même eu des exploits dans cette rencontre. Il y a eu des gestes de folie, et notamment un certain Baptiste Couillou qui est encore une fois a marqué le match de son empreinte. Baptiste Couillou, le serial marqueur de cette équipe du Loup Rugby, qui a permis à son équipe de tenir jusqu'au bout de la rencontre, mais au final c'est Perpignan qui s'est imposé.
C'est lui qui a mis la fin du...
Bah oui, bah 45 ouais. secondes, forcément. Je suis
non,
obligé
mais
de
lui, non, mais ouais.
Mais la prochaine
alors, il va y avoir un classement, David Gérard, monsieur l'arbitre. Il me l'envoie. Oh là 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 là, j'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est toujours un grand moment. Ils sont cinq ce soir. William, Enzo, Antoine, Dorian, Quentin. Qui va remporter l'affiche de la septième journée du top 14?
Ça arrive, monsieur.
Ne oui, t'inquiète pas, je suis en train de broder. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est arrivé. Waouh. Oh, waouh. Ok, alors.
Ah non, j'ai pas perdu encore.
Quatrième ce soir et avant-dernier. William.
Quoi ?
William perd son titre.
Comment ça, William 4ème ?
Il a
pas besoin de se justifier pour Vizem.
Non, il a pas besoin de se justifier, mais je suis surpris. Je m'attendais pas à ça.
Il arrive sur le podium, à la 3ème place, Dorian Malvezin.
Logique. Merci David.
À la 2ème position, la place du con peut-être. Quentin Cabanis.
Ça va, je prends.
Ça se joue donc entre Enzo et Antoine. Je sens qu'on va avoir un. Je sens que ça va pas bien se passer en
non,
studio.
Non mais attends, si Enzo a gagné, je quitte le studio hein, quand même.
C'est bon, attends, laisse-moi l'annoncer. Le vainqueur de la 7ème journée dans de l'affiche est Antoine Mazère.
Voilà. Ok, c'est, je comprends.
Il a fait monter la station.
Merci, juge.
J'ai eu t'as un petit discours à faire pour tes adversaires quand même, Antoine.
Aujourd'hui, non, honnêtement, ce soir c'était très relevé. Il y a eu du respect du timing dans tous les sens et il y a eu du niveau. Donc gagner en plus quand il y a du niveau, c'est d'autant plus méritant. Donc tu peux noter sur ton classement, Alexandre, que tu mets à jour sur ta race et dans ton ranking que ça y est, tu peux mettre un petit bâton.
Et bah, il faut vraiment que je le fasse ton ranking. Je vais le faire, tiens, tout à l'heure.
Il y a William.
Et voilà, oui. Une victoire pour William, une victoire pour Antoine Mazère. Merci pour son haut de l'affiche. Merci William d'avoir été avec nous. Quatrième place, t'es un petit peu descendu là. T'as glissé là.
Ouais, après trois victoires à la suite, bon, faut se remettre au boulot.
Il est arrogant, Smith.
Après trois victoires à la suite.
Voilà, allez, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous voulez la placer quand même, celle-là? J'aurais mal dormi.
Pas de problème. Merci William d'avoir été avec nous.
Merci du coup de main.
Allez,
merci.
Une petite question que je vais vous mettre comme ça, là, boum, dans le visage, et après vous en faites ce que vous voulez. L'UBB fait encore tourner chez un gros du top 14. Mais quand on est candidat au titre, est-ce manquer de respect au championnat? Il y a une personne qui va pouvoir l'ouvrir sur ça, c'est David Gérard, puisque les autres devront attendre après le flash. David, est-ce que c'est un manque de respect au top 14 que fait l'Union Bordeaux-Bègles en mettant Lucu et Jalibert sur le... Bah, même pas dans le voyage?
Aujourd'hui, c'est preuve d'ambition, en fait, de la part de l'UBB. Pourquoi? Parce que des fois, l'ambition, c'est de pas sortir toutes leurs forces. Est-ce qu'on a condamné le Stade Toulousain pendant des années, qui faisait tourner à La Rochelle, qui faisait tourner à Toulon, qui faisait tourner à des endroits où bah, chaque fois ils y allaient avec une équipe remaniée. C'est surtout qu'ils veulent. Et puis ils arrivaient à y gagner. Donc je pense qu'aujourd'hui l'objectif de l'UBB, il est bien plus loin que ça.
Et ils veulent un petit peu cacher leurs armes pour le futur et préserver leurs joueurs, parce que la saison va être longue. Mais ils alignent quand même une équipe, une équipe sympa. Hein. Voilà, si, ils ne viennent pas avec les juniors. Hein.
Ah non, c'est clair. Et cette équipe-là, vous allez la découvrir dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby. À tout de suite.